malgré tout, malgré l'importance du cinéma dans la société, les études cinématographiques, ben, c'était une exoplanète. Une exoplanète qui a tellement peu de lumière qu'on a de la difficulté à la voir parmi les autres planètes. Mais je suis heureux de dire que la mission que je m'étais donnée, je ne suis pas le seul à l'avoir réalisée, bien sûr, mais que les études cinématographiques, au fond, passent de exoplanète à planète, ben, c'est réalisé maintenant.
Chaque année, l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue. Merci d'être à l'écoute du balado Les Remarquables de l'Université Laval. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé de l'Université Laval en communication publique, et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec André Godreau, lauréat du prix Grand Diplômé 2024. Avant de commencer l'entretien, voici un résumé de sa brillante carrière. Bachelier en cinéma et histoire de l'art de l'Université Laval et détenteur d'un doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, André Godreau est professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal, où il est titulaire d'une chaire de recherche du Canada. Véritable précurseur au Canada en matière de recherche et d'enseignement dans le domaine du cinéma, son vaste champ d'expertise couvre notamment la période des premiers temps du cinéma, l'instauration de la pratique du montage, la narration cinématographique, ainsi que les répercussions du numérique et autres innovations technologiques sur l'univers médiatique. André Godreau mène présentement des recherches axées sur les rapports entre cinéma et neurosciences. Il a écrit ou co-écrit 7 ouvrages, a présenté près de 350 conférences et interventions publiques. Il a été professeur invité dans 18 universités. Ses publications ont été traduites dans 17 langues. Il a également reçu plusieurs honneurs au cours de sa carrière. Il a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 2022. Il est titulaire de 2 doctorats honoris causa et a été récipiendaire du prestigieux prix Killam en 2018, lauréat du prix Léon Gérin, décerné par le gouvernement du Québec en 2017, élu Fellow de la Société royale du Canada en 2014, en plus d'avoir été nommé Fellow de la Guggenheim Foundation en 2013 et chevalier dans l'Ordre des arts et des lettres de la République française en 2016. Et imaginez, ceci n'est qu'un aperçu de son illustre carrière. André Godreau, bonjour.
Bonjour Jean-Sébastien, bien heureux d'être avec vous ici aujourd'hui.
C'est un bonheur de discuter avec vous. D'abord, comment on se sent à titre de grand diplômé de l'Université Laval?
Ben, écoutez, pour moi, ce qui est fondamental, c'est l'origine de ce prix. C'est un prix qui vient de l'Université Laval, de mon alma mater, et pour moi, ça représente beaucoup. Parce que cet alma mater-là a été vraiment une mater pour moi, et non pas une mater dolorosa, et au contraire. Et j'ai donc pu évoluer dans ma carrière parce que j'avais des bases solides qui proviennent des études que j'y ai menées. Pas nécessairement en cinéma, d'ailleurs, parce que, comme vous le savez, j'ai étudié un peu en journalisme, un peu en histoire de l'art, un peu en littérature et beaucoup, bien sûr, en études cinématographiques.
Absolument. Votre histoire d'amour avec le cinéma a commencé ici, donc à l'Université Laval, M. Godreau. Vous étiez alors étudiant en journalisme, vous en avez parlé un petit peu dans votre réponse précédente. Vous êtes entré un peu par hasard et par curiosité dans un cours de cinéma où un segment du film Citizen Kane était présenté. Qu'est-ce qui vous a tout de suite fasciné dans ce film culte d'Orson Welles?
Écoutez, en fait, c'est un peu un genre de syndrome que j'ai vécu quelquefois dans ma vie. Vous m'avez caché que ceci existait. C'est-à-dire que je suis rentré dans la classe et j'ai vu une partie du film qui était analysée par un professeur, c'était François Babie, professeur donc au département des littératures, et qui commentait le film avec des séquences montrées ici et là. Et puis pour moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que je n'étais pas un cinéphile, je ne connaissais pas beaucoup le cinéma, bon, bien sûr, comme tout le le monde à mon âge dans les années 60 et 10. Je suis allé au cinéma, mais en même temps, la culture cinématographique n'était pas facile à développer pour, pour quelqu'un qui n'avait pas accès à Montréal ou qui n'allait pas souvent à Montréal voir des films à la cinémathèque, bon, etc. Donc, ça m'était québécoise. Donc, à l'époque, c'était un peu le désert. Alors, je suis allé voir des films, bien sûr, dans les cinémas et tout. Là, mais... Et donc, j'ai vu ce film en noir et blanc. Bien sûr, j'avais vu des films en noir et blanc à la télé, mais c'est normal, la télé est en noir et blanc, au début, ouais, en tout cas. Bon, oui. Donc, mais là, c'était un vrai film, entre guillemets, vraiment en noir et blanc, et c'était un film qui était, dont il se dégageait une atmosphère troublante, je dirais. Et puis, je me suis dit, hey, mais mon Dieu, je savais pas que ceci existait. Bon, j'avais entendu parler, bien sûr, de Citizen Kane, mais je ne l'avais pas vu. Et je ne savais pas qu'on pouvait aller jusque là dans la présentation des images animées. Et puis, le commentaire que le professeur faisait, je trouvais ça aussi fascinant, bon, etc. Et donc, c'est un peu le syndrome dont je parle parce que, comme je viens d'une famille modeste du quartier Liboileau, j'avais une fascination pour les contrées lointaines, ces contrées lointaines que représentait Old Orchard Beach pour moi. Parce que je n'étais jamais allé à Old Orchard, puis les jeunes enfants qui jouaient avec moi avec des chandails Old Orchard Beach me disaient « qu'est-ce que c'est ça? » Puis à 20 ans à peu près, je suis allé pour la première fois voir la mer et les vagues roulant. C'est plutôt à Gunquit qu'à Old Orchard. Puis... quand je suis monté au-dessus de la dune, puis j'ai vu ça, mais j'ai dit, mon Dieu, vous auriez dû me dire que ça existait. Alors, depuis ce temps-là, chaque année, je suis obligé d'aller voir une mer qui roule parce que je trouve ça fascinant et ça a comme été une révélation à 20 ans. Donc, c'est un peu la même chose avec le cinéma. Hein? C'est une découverte majeure pour moi et tout de suite, j'ai été emballé. J'ai été tellement emballé, d'ailleurs, que là, je vous parle de quelque chose qui s'est produit en 1973. Oui, en 73 ou peut-être janvier 74, peu importe. Ben, un an plus tard, j'étais devant la classe en train de donner un cours en remplacement d'un prof duquel j'étais l'assistant, d'un chargé de cours, en fait. Et puis, une autre année plus tard, ben, je donnais des cours en cinéma. J'ai fait mes classes en accéléré et donc, j'ai développé des cours qui n'existaient pas à l'Université Laval parce qu'on m'a engagé d'abord comme chargé de cours. Après quelques années, je suis devenu professeur et quelques années plus tard, j'ai mis migré à Montréal, à l'Université de Montréal.
Véritable moment charnière de votre vie, ce visionnement du film d'Orson Welles, donc.
Oui, puis en plus, quand je parle de la fascination, je pense que c'est important qu'on soit fasciné dans la vie. Ben justement, moi, à l'Université Laval, j'ai été fasciné, donc, par ça, ce que je viens de dire, c'est-à-dire les commentaires du professeur Babi, le film de Citizen Kane, l'espèce de je sais pas comment dire, de mystère qui planait autour de ça. Puis il y a un autre mystère aussi qui m'intriguait, c'est qu'à l'époque, j'étais donc étudiant en journaliste, je commençais en journaliste, après avoir été à l'UQAM, en philo, bon, etc., j'ai abandonné, je suis revenu à Québec, et donc, je voyais les étudiants se promener avec des livres qui me fascinaient, des livres dans la collection 10-18, dont un, c'était Dziga Vertov, article journaux projet, puis un autre, S.M. Eisenstein, Au-delà des étoiles. Là, je voyais les étudiants qui étaient en cinéma, qui avaient ces livres-là. Deux livres qui étaient recommandés par l'autre professeur en cinéma qui m'a bien marqué, qui est Paul Warren. Et ça me fascinait aussi. Je me disais, Au-delà des étoiles, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Dziga Vertov, c'est qui ce Dziga-là? Etc. Oui. Donc, tout ça, ça a ajouté au mystère. Puis finalement, c'est comme si je m'étais dit, ben, je suis obligé d'aller à la recherche des réponses sur ces mystère-là.
Très bien. Monsieur Godreau, vous êtes à l'origine de l'instauration du premier doctorat en études cinématographiques au Canada, qui a vu le jour en 2007 à l'Université de Montréal. Depuis vos tout débuts en enseignement dans les années 70, vous cherchez à approfondir le savoir dans le domaine du cinéma, à décortiquer la structure filmique, à donner au cinéma ses lettres de noblesse en tant que science et objet d'étude. Pourquoi est-ce si important pour vous que le milieu universitaire s'intéresse au cinéma?
Ben en fait, je vais faire référence à ce que j'ai dit plus tout à l'heure. Je viens d'une famille relativement modeste et je suis entré donc dans une discipline qui était très modeste à l'époque, qui n'existait même pas comme discipline, qui n'était pas reconnue, mais qui faisait ses premiers pas au Québec et ailleurs dans le monde aussi. Et je voulais pas que les études scénographiques restent le parent pauvre des disciplines universitaires. Donc, pour moi, c'était très important. C'était un défi que je me suis donné une fois que j'ai eu fait mon développement comme étudiant, que j'ai été ensuite engagé comme chargé de cours, puis comme professeur. Je me suis dit, il faut absolument que je crie au monde toute la beauté de cette discipline-là et tout l'intérêt que cette discipline-là a. Bien entendu, son objet d'étude est un objet fascinant déjà pour tout le monde, parce que j'explique souvent, on pourra en reparler plus tard, mais j'explique souvent que le mot cinéma, même si le cinéma a été ravalé au rang des autres médias depuis le numérique, le mot cinéma persiste et signe, parce que le mot cinéma fait rêver, parce qu'il veut rien dire. En anglais, c'est motion pictures. Ben, motion picture, des images en mouvement. C'est pas très, très glamour. C'est pas tellement poétique. Etc. Alors que cinéma, ça fait rêver. Et ça veut rien dire, parce qu'à l'époque, à l'origine, c'était cinématographe. Graphe, ça l'inscrit dans le monde. T'enlèves le graphe puis le taux, puis ça devient cinéma. Puis là, cinéma, ça veut dire quoi? Ben, c'est sûr que à l'origine, c'est le mouvement, mais cinéma. Alors, et c'est tellement fascinant que la communauté anglophone a adopté le mot cinéma, l'a importé dès 1912, alors qu'ils avaient un vocabulaire énorme pour parler du cinéma, motion picture, moving picture, cinématographie, etc., etc. Puis tout à coup, ils ont importé le mot cinéma, sauf qu'ils l'ont importé, c'est encore plus poétique, avec l'accent anglais, sans accent aigu. Alors, c'était le cinéma. Cinéma. Donc, tout ça, c'est du rêve. Tout ça, c'est au-delà des étoiles. Et en plus, au-delà des étoiles, ben, le cinéma, c'est aussi un lieu où les étoiles, les stars ont brillé, bon, etc. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire comme rapport entre les différents éléments. Donc, pour moi, c'était très important parce qu'au fond, à réflexion faite a posteriori, on se dit que les études cinématographiques, ben, c'était une exoplanète. Une exoplanète qui a tellement peu de lumière qu'on a de la difficulté à la voir parmi les autres planètes. Et ce qui est un peu étonnant, puisqu'on doit le cinéma aux frères Lumière, donc peu de lumière, mais les frères Lumière, et à Edison, qui a été un des inventeurs de l'électricité, bon, etc., etc. Donc, encore là, tout ça, ça fait que malgré tout, malgré l'importance du cinéma dans la société, les études cinématographiques étaient une exoplanète qu'on avait de la difficulté à voir parmi l'ensemble des planètes. Mais je suis heureux de dire que la mission que je m'étais donnée, je ne suis pas le seul à l'avoir réalisée, bien sûr, mais que les études cinématographiques, au fond, passent de exoplanète à planète, c'est réalisé maintenant.
Bravo, d'ailleurs, pour ce cheminement et ce que vous avez fait pour le cinéma au Québec. Vous avez coécrit en 2013 avec Philippe Marion le livre « La fin du cinéma, un média en crise à l'ère du numérique ». Comment les innovations technologiques ont-elles bouleversé certains paradigmes du cinéma au point de remettre en question son identité même et sa survie, selon vous?
Son identité même, oui, elle est menacée, mais en fait menacée parce que au fond, c'est une évolution. Le cinéma, en 2023, le cinéma n'est pas ce qu'était le cinéma en 98 ni en 1920, bon, etc. Ça va de soi. Donc, c'est une identité en évolution. Menacée de survie, pas vraiment pour nous. D'ailleurs, pour nous, je parle de Philippe Marion et moi, les deux auteurs, donc un collègue et ami belge et moi, qui avons publié donc « La fin du cinéma », point d'interrogation. Le point d'interrogation est très important.
Oui, absolument.
Et le sous-titre, c'était donc « Un média en crise à l'ère du numérique ». Donc, en 2013, on se positionnait comme suit. Ça fait 13 ans, pour aller vite, que le cinéma est en train de passer au numérique et que finalement, le numérique a abouti vers 2006, 2007, 2008 à être vraiment comment dire, hégémonique et la disparition donc de la pellicule etc., argentique et tout. Et Et on s'est dit, ben, on est face à un média qui est en crise à l'ère du numérique. Mais le livre, on a fait une deuxième édition qui est parue il y a 6 mois, au mois d'août en tout cas, 2023. Et on a changé le sous-titre. Ça s'appelle La fin du cinéma, point d'interrogation. Mais au lieu d'être un média en crise à l'ère du numérique, c'est la résilience d'un média à l'ère du numérique. Parce que 10 ans plus tard, une nouvelle édition largement augmentée, mettons pour aller vite de 180 pages ou quelque chose du genre, de plus, on a fait un petit livre, un beaucoup plus gros livre, et on fait état donc de toutes nos réflexions, Philippe et moi, depuis 2013, donc 2013-2023, et en 2033, on fera une troisième édition, en 2043, bon, enfin bref, voilà, un peu de prospective. Et donc, on parle maintenant de la résilience d'un média.
Donc, parce on que voit quand même un important changement de perspective là, dans 10 ans.
Exactement, parce que les assauts que le cinéma a subis sont énormes en 2013 et 2023. En 2013, il n'y avait pas de plateforme, ou à peu près pas, comme Netflix, Disney, etc., etc. Mm-hmm. Mais depuis ce temps-là, il y a eu ça, et donc ça a menacé les salles. Puis en plus, ben, c'est un peu arrangé avec le gars des vues peut-être, mais il y a eu la COVID, donc les salles ont encore payé, je dirais pas de leur personne, mais en tout cas, ont payé leur tribu parce que c'était impossible d'aller dans les salles de cinéma, etc., etc. Et donc, on commençait à prendre des habitudes, à développer notre rapport au cinéma de salon, comme on appelle ça, nous, dans le livre, plutôt qu'au cinéma de salle, tant et si bien d'ailleurs que si on avait eu le choix de changer le titre du livre, mais on pouvait pas parce que c'était une réédition, il faut garder le même titre, on a changé le sous-titre, mais le titre, ça aurait pu être « La mort des salles », point d'interrogation.
Ouais.
Mais encore là, on aurait mis le point d'interrogation parce qu'on sait, pour nous en tout cas, sans faire de la futurologie, que les salles disparaîtront pas non plus. Les salles, c'est comme le cinéma, c'est résilient, ça trouve toujours le moyen de se frayer un chemin. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on va moins au cinéma, on n'a pas besoin de faire de calculs, mais on voit plus de films.
Ouais.
Beau paradoxe. Alors, on voit 10... Moi, je vois... 10 fois plus de films, parce que je vais au cinéma de salle, puis parfois souvent au cinéma de salon, et donc, avec tout ça, le résultat des courses, c'est qu'on voit beaucoup plus de films, et surtout, on a accès à la bibliothèque, entre guillemets, de l'humanité de toute l'histoire du cinéma, sur les films qu'on voudrait voir, ça, c'est
effectivement, pour quelqu'un qui s'intéresse particulièrement au cinéma, il y a beaucoup de matière à aller chercher partout en ligne, en fait, là.
Oui, partout en ligne ou encore, bien sûr, avec les DVD, si on continue à utiliser le DVD et tout. Donc, on a accès... La culture cinématographique a fait un bond. Et c'est bizarre parce que on pourrait dire qu'elle a fait un bond malgré la dématérialisation, malgré la digitalisation, la numérisation, malgré l'entrée dans l'ère numérique, qui est, d'une certaine manière, qui sonne un peu la mise en retrait du cinéma. Parce que le cinéma est mis en retrait par rapport aux autres médias, dans la mesure où le cinéma était le king avant, était le roi, puis les autres médias, la télé, etc., etc., c'était secondaire.
Et ça, on parlait du grand écran versus le petit écran, justement.
Exactement. Et puis là, ben là, les dimensions ont changé un peu, d'une part, mais d'autre part aussi, parce que la qualité des séries télé a fait que finalement, les séries télé sont un peu mises côte à côte au film et qu'il n'y a pas de raison épistémologique, je dirais, de lever le nez sur les séries télé. Et donc, séries télé qui sont pas de télé tellement puisqu'ils sont présentés par Internet, etc., la plus souvent, mais peu, ou sur DVD. Mais ça a comme égalisé le cinéma aux autres médias, tant et si bien que dans cette ère de diversité que nous connaissons, le cinéma est descendu de son piédestal, il est tombé de son piédestal. Je vais vous donner un exemple. J'ai une chaire de recherche que j'aurais nommée avant chaire de recherche en études cinématographiques, mais en 2015, quand je l'ai créée, j'ai réfléchi, j'ai dit, je peux pas l'appeler comme ça. Je l'appelle chaire de recherche en études cinématographiques et médiatiques. C'est un exemple que je donne. Et toutes les institutions cinématographiques changent leur nom ou adaptent leur nom à la nouvelle réalité, tant et si bien d'ailleurs que l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, parle de plus en plus de productions audiovisuelles, ce qui est pas glamour du tout.
Mais qui est plus englobant. qui est plus englobant,
oui, on comprend. Exactement. Ouais. Puis quand on interviewe les étudiants dans leur publicité, j'ai toujours rêvé d'être, de faire du cinéma. Donc tout le monde parle de cinéma, mais hop, pour être correct, pas politiquement correct, mais en tout cas, on parle de production audiovisuelle. Mais comme je dis à mes étudiants souvent, la blague, j'ai dit, écoutez, le mot cinéma est résilient. Hein, le mot cinéma est résilient plus que tout autre au monde. Je vais vous donner un exemple. Je dis ça à mes étudiants. Quand vous allez à votre repas de Noël avec la famille, puis que votre matante ou votre mononcle vous demande, puis en quoi t'étudies, mon petit gars, ma petite fille? Mm-hmm. Si vous répondez, j'étudie en images en mouvement, ah bon, ou en images animées, ah bon, en production audiovisuelle, ah ouais, moi, ou en audiovisuel. Mais si vous dites en cinéma, ah ouais! Et moi, je l'ai vécu à Québec en 1972, ça. J'étais étudiant en cinéma et j'étais remplaçant dans une école secondaire. Les étudiants secondaires 2 me demandaient ce que je faisais dans la vie en dehors de ça. J'ai dit, j'étudie à l'Université Laval. Ils me disent en quoi? J'ai dit en cinéma. Les yeux s'écarquillaient, puis ils me demandaient, ouais, est-ce que tu veux me faire jouer dans ton prochain film? Parce qu'il y a une association entre les deux, etc., ouais, etc. Ouais. Donc, vous voyez, c'est très... très, très, très éloquent. Et au fond, la magie du cinéma, c'est aussi la magie du mot cinéma. Aussi bête que ça.
Vous avez mis sur pied en 2018 un partenariat international de recherche interdisciplinaire nommé Cinex Media. Vous établissez notamment un rapport entre le domaine du cinéma et celui des neurosciences. L'objectif de ce projet, et je cite ce que l'on retrouve sur la page de Cinex Media, est de contribuer au bien-être à l'ère des écrans. Parlez-nous un peu de ce projet.
Ben, d'abord, pour vous dire que nous sommes trois co-directeurs de ce projet. Il y a aussi Santiago Hidalgo, professeur à mon département, ainsi qu'Isabelle Reynaud, professeur à mon département. Et donc, nous avons mis sur pied ce projet de partenariat international qui a la particularité de travailler sur sur un mode interdisciplinaire, mais au-delà de ça, sur ce qu'on appelle l'intersectorialité. L'intersectorialité, c'est faire des ponts entre des secteurs différents. C'est de l'interdisciplinarité, mais pas banale, en guillemets, là. J'ai toujours fait de l'interdisciplinarité. Ma pratique de recherche implique la littérature, le cinéma, le théâtre, bon, etc., etc. Mm-hmm. Mais là, c'est dans le même secteur. Sauf que là, on franchit le Rubicon et on traverse de l'autre côté de la barrière et on va voir du côté des neurosciences et des sciences d'éducation, etc. Donc, l'intersectorialité, c'est intéressant à la mesure où on nourrit nos approches respectives et les neurosciences peuvent enfin, depuis quelque temps, penser utiliser le cinéma à bon escient parce que pour eux, dans les neurosciences, le cinéma a toujours été pris comme un modèle. Un modèle de réflexion épistémologique, ils parlent de plans, ils parlent de séquences, etc. Sauf que, comme ils connaissent pas vraiment le cinéma, ben ils adaptent mal à leur réflexion. Maintenant, ça va être plus facile de faire des ponts. Bon, même chose pour nous qui sommes pas des habitués des neurosciences, mais on a développé des projets de recherche qui permettent justement de prévoir des réflexions sur des pans entiers de la réflexion sur le cinéma. En fait, le projet Cinex Media, c'est un projet qui se fonde sur l'étude de l'expérience cinématographique. Autrement dit, on essaie de voir comment le spectateur, la spectatrice reçoit les films, comment sur le plan cognitif, etc., il y a émotionnel, psychologique, comment le cinéma peut l'influencer, et donc comment aussi on peut produire des œuvres ou des segments d'œuvres qui permettent d'avoir des effets thérapeutiques sur les spectateurs. On étudie notamment l'influence de l'écoute ou de l'audiovision d'un film dans un lit avant de s'endormir, si ça a un effet favorisant le sommeil ou pas, dépendant de qui, bon, etc. Donc, c'est des recherches qui sont en cours auxquelles qui n'ont pas encore donné des résultats probants. On en parlera dans quelques années. Mais aussi sur des réflexions plus théoriques comme celles que moi j'ai menées sur ce qu'on appelle dans les sciences neurologiques le Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement, c'est le mouvement rapide des yeux que nous éprouvons toutes les nuits lorsque nous rêvons. Quand nous rêvons, il y a un mouvement rapide des yeux, etc., etc. Et c'est un phénomène intéressant que j'ai... Et j'ai essayé de voir si je pouvais faire le pont entre ça et l'éventuel mouvement rapide des yeux qu'on pouvait avoir au cinéma lorsqu'on avait des films qui étaient montés avec un rythme effréné. Et donc, sauf que bien sûr, c'est deux Rapid Eye Movement, deux mouvements rapide des yeux qui sont très différents parce qu'il y en a un qui se fait des paupières ouvertes, l'autre durant la nuit, les paupières fermées, un en état de veille, l'autre en état de sommeil, bon, etc. Mais il y a des questionnements, des questions en tout cas à se poser là-dessus, il y a des ponts à faire. Et le film que j'utilise, ben, c'est un film muet de 1924, je crois, La roue d'Abel Gance, qui est réputé pour être très... avoir des segments où les plans ont deux, trois... photogramme seulement, puis c'est comme une mitraillette qui tire, etc. J'aurais pu aussi prendre les films d'Eisenstein et de Dziga Vertov pour faire référence à ce que j'ai dit au début, mais bon, voilà.
Oui, absolument, absolument. Voilà qui conclut notre entretien, M. Godreau. Par vos connaissances et votre charisme, je suis convaincu que vous vous êtes fait de nouveaux adeptes parmi nos auditeurs aujourd'hui. Merci du temps que vous avez pris avec moi aujourd'hui et félicitations pour le prix Grand Diplômé que vous venez de recevoir.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Cet entretien avec André Godreau, lauréat du prix Grand Diplômé, a été réalisé le 8 février 2024 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.